Donc, vous m'avez demandé de parler de l'accueil et de l'action sociale. Alors, je ne suis pas un théologien, donc, je ne suis pas non plus un responsable d'église. Donc, l'accueil dans l'église, c'est une question que vous m'avez posée, mais je vais donc la traiter d'un autre point de vue, qui est que je suis président d'une association de solidarité, une association chrétienne de solidarité. Donc, on est amené à côtoyer un certain nombre de personnes qui rencontrent des difficultés, de graves difficultés dans notre société. Et de ce point de vue-là, je peux essayer de vous apporter, avec mon épouse qui est là-bas, que peut-être un certain nombre d'entre vous connaissent, qui est en fait la cheville ouvrière du travail de l'accueil qui se passe donc à la ferme Clarisse dans le Gard. On peut essayer de vous apporter un éclairage sur qu'est-ce qu'attend peut-être l'exclu, le pauvre, le démuni, un petit peu, voilà. Et à partir de là, vous pourrez voir si ce qu'on vous a dit peut vous donner des pistes pour l'accueil. Bon, parce que après, selon vos options, selon vos vécus locaux, etc., voilà, ça pourra peut-être être retravaillé. Donc, ce qu'on vous propose, c'est une réflexion donc sur cette question, et puis vous ferez du tri dans ce que j'aurai raconté. Voilà. Alors, on m'a envoyé 10 questions. Donc, c'est un peu lourd, mais on va essayer de ne pas toutes leur donner le même poids. J'ai suivi la feuille qui m'avait été envoyée. Donc la question, c'est comment accueillir, et donc c'est accueil et aide sociale. Donc comment accueillir et aider les démunis de notre société? Quel cadre de responsabilité et de mission pour l'église locale? Peut-on dissocier l'évangélisation et l'aide sociale? Comment s'informer pour comprendre ces gens? Quelle place pour l'action chrétienne dans la société? À quelles contraintes faut-il être prêt à faire face? Les écueils à éviter? Les pistes ou les méthodes à utiliser, faut-il créer une association et comment accueillir ces personnes dans nos églises? Alors, je vous ai mis des flèches rouges pour vous dire les points sur lesquels je pense m'attarder un peu plus. Voilà, pour les autres, on donnera un petit éclairage et puis vous retravaillerez. Et j'ai mis ici un petit pointillé pour suggérer qu'on s'arrête, faire la pause à ce niveau-là. Voilà, j'ai mis en rouge les points qui sont un peu le résumé de la question. Alors, on va partir directement sur la première question. Et avant la première question, j'avais prévu une petite dédicace à cet après-midi. Je veux dédier cet après-midi à quelqu'un qui a eu un parcours très difficile et qui est mort jeune et qui a une histoire extrêmement touchante. C'est quelqu'un qui est né dans une famille très simple. Son père était artisan, simple artisan. Sa mère était une campagnarde. Et ils se sont. Elle était enceinte, donc ils se sont mis ensemble, ils se sont mariés. Et au moment où donc cette personne, ils ont eu des démarches à faire, la CAF les a convoqués à une vingtaine de kilomètres. Ils ont dû faire un voyage pour aller régler ces questions de papier. Et pendant qu'ils étaient en voyage, elle a eu les premières contractions. Et donc ils ont dû s'arrêter. En urgence, et elle a donc accouché dans une grange. Et donc, cet homme a donc commencé sa carrière, sa vie sur la terre comme un SDF. Et plus il s'est rendu compte, sans doute peut-être que ça l'a prédisposé à s'intéresser toujours à ces errants qu'il a rencontrés dans sa vie. Et dans sa généalogie, il y avait ce qu'on appelle des origines honteuses, vous savez, on n'en parle pas volontiers. Il y avait plusieurs personnes qui avaient fait le tapin, quoi, des prostituées, quoi. Et plus tard dans sa vie, les gens ne se priaient pas de lui dire « Oui, toi, nous, on a une généalogie, mais enfin, toi, on ne sait pas trop d'où tu viens. » Et probablement qu'après, il a eu une fibre particulière pour s'approcher aussi de ces personnes-là des rues. Lui savait ce que ça voulait dire qu'on lui reproche des choses comme ça. Alors qu'il était jeune, il s'est trouvé que son pays était envahi. Donc il a dû connaître ça aussi, d'être dans un pays qui est envahi par un étranger, au nom de la paix qu'on apporte aux autres, vous savez, au nom de nos bienfaits, comme on sait encore très bien faire aujourd'hui. Et un dictateur qui dirigeait la région a ordonné un massacre. Ses parents se sont décidés de s'enfuir. Il a été le seul survivant de tous les enfants. Et donc plus tard aussi, il faut assumer cette place de survivant d'un massacre. Il a donc connu la situation d'exilé, de réfugié dans le pays voisin, Je ne sais pas s'il y avait à cette époque la notion de sans-papiers, mais aujourd'hui certainement qu'il pourrait les comprendre. Du fait de ce parcours, de cette pérégrination incroyable, il n'a pas eu de lieu fixe pendant plusieurs années, et il n'a pas pu sans doute suivre l'instruction normale. Et plus tard aussi, alors que c'était un homme qui finalement en grandissant avait acquis une sagesse de vie extraordinaire, les gens lui disaient: mais d'où ça te vient ça? T'es pas allé aux écoles, toi? Et il fallait qu'il s'entende parler comme ça, ces phrases qu'on lui jetait à la figure. Très tôt, donc, il a eu cette sensibilité aux exclus, aux petits, et donc il a décidé de prendre la route. Le routard, vous l'avez reconnu bien sûr, petit à petit, ce routard de Jésus, vivant de l'aumône pour aller à la rencontre des autres, éprouvant de très grandes fatigues dans sa vie. Incompris, surveillé pour voir s'il disait pas des bêtises, si c'était bien conforme à la théologie de tout le monde, s'il n'était pas en train de dire quelque chose que normalement on ne devrait pas dire, etc., si on est un bien-pensant, au point que même le geste d'entraide devenait suspect aux yeux d'un certain nombre de gens et que parfois il s'est redressé, il s'est même mis en colère devant cette attitude. Vous l'avez compris pourtant, celui-là s'est appuyé d'une façon indéfectible sur l'amour de Dieu dont il parlait et sur aussi une juste estime de la place qu'il occupait, se laissant pas marcher complètement sur lui, une juste estime de sa place et de son identité. Celui-là, vous l'avez bien sûr reconnu, est-ce que nous lui laisserons la possibilité de nous rejoindre? Je veux ici faire une interpellation aux chrétiens que vous êtes. Les chrétiens sont très préoccupés de ressembler à Jésus-Christ. Mais c'est impossible. C'est impossible parce que les chrétiens croient que, en fait, Jésus-Christ est un homme parfait, qu'il est même la révélation de Dieu sur la terre, donc c'est impossible. Sinon, ça reviendrait dire que nous ressemblerions à Dieu. Et si les chrétiens, à l'inverse, voulaient bien lâcher ce désir-là, qui est pourtant magnifique, hein, ressembler à Jésus, et laissait l'opération se faire en sens inverse, et plutôt que ressembler à Jésus, s'il laissait Jésus-Christ les rejoindre. Les rejoindre dans le dénuement que chacun d'entre nous éprouvons vis-à-vis des pauvres, des démunis, etc. Si nous le laissions nous rejoindre à cet endroit-là, si nous le laissions nous rejoindre dans ces rejets que nous ressentons, dans ces limitations que nous éprouvons, dans ces dénuements, dans ces fatigues que nous venons de décrire à l'instant, peut-être que se lèverait alors une nouvelle énergie, une nouvelle force, qui n'est pas d'être des gens qui ont la réponse à tout, mais des gens qui vont faire face à la situation qui leur est offerte. Voilà. Pour donner un éclairage biblique, vous savez que les disciples d'Emmaüs, j'ai cité l'abbé Pierre tout à l'heure, c'est pas pour rien qu'il a appelé son œuvre les compagnons d'Emmaüs, ces gens qui comprennent rien à ce qui leur est arrivé, à ce qui vient de se passer, et qui se font rejoindre par quelqu'un sur la route et qui se met à leur parler. Voilà. Et ces gens qui deviennent capables de dire à cet inconnu: mais tu sais, nous, on avait un espoir énorme. Nous, on avait cru à quelque chose, et ce quelque chose s'est effondré. Et donc cet homme qui chemine avec eux, en les questionnant, en s'intéressant à eux, devient capable d'entendre cette immense déception. Combien il y a de gens déçus autour de nous, qui espéraient que ça serait autrement leur vie. Personne n'a choisi sa vie pour devenir un exilé. Personne n'a choisi de se retrouver en prison. Personne n'a choisi de divorcer. Personne n'a choisi d'être les enfants du divorce. Personne n'a choisi d'être quelqu'un qui doit dépendre de son RMI, de la CAF. Tout le monde a l'impression que ça lui est tombé dessus et avait un autre espoir pour sa vie. Et y a-t-il des gens qui pourraient cheminer sans trop avoir une présence trop forte, mais faire en sorte que petit à petit, on puisse exprimer cette grande déception que l'on est en train de vivre? Se laisser rejoindre. Se laisser rejoindre. Vous savez aussi que le Christ a lavé les pieds de ses disciples et que ces disciples-là ont cherché à l'en empêcher. Parce que c'était trop gênant d'avoir quelqu'un de bien, avec ma belle écharpe, hein, quelqu'un de bien, qui vienne se mettre à genoux devant les autres pour leur laver les pieds. Ça ne se fait pas, ça. Ça ne se fait pas. C'était quelqu'un de bien quand même, Jésus. Il avait aussi un côté rabbin. On lui disait, rabbin, quand même, il causait avec une force, d'ailleurs, qu'on lui reconnaissait. Et donc, ses disciples, on lui a dit, non, non, ne fais pas ça. Notre aide, malgré le fait qu'il était au pied, l'aide, c'est tellement difficile à accepter. Voilà. Eux aussi, ils ne voulaient pas se laisser rejoindre dans cette nécessité qu'ils avaient, ou dans ce simple service. Le lavage des pieds, à l'époque, hein, c'était parce qu'on avait, quand on avait voyagé, on avait les pieds, les routes avec des sandales, on avait les pieds gonflés, poussiéreux, donc on se lavait les pieds, c'était un acte de bonté, d'hospitalité. Eh bien, même cet acte-là, des fois, notre aide, elle va être refusée aussi. Ce n'est pas facile de se laisser rejoindre. Est-ce qu'ils ne voulaient pas se laisser rejoindre dans ce désir, dans ce besoin qu'ils avaient, hein? Jésus-Christ va aller beaucoup plus loin, on le sait, puisque pour qu'on finisse par accepter qu'il nous rejoigne, il va aller jusqu'à l'amour jusqu'au bout. Et l'amour jusqu'au bout, pour les chrétiens que nous sommes, c'est évidemment sa mort et sa résurrection. Mais c'est pour montrer que des fois, on refuse de se laisser rejoindre. On refuse de se laisser rejoindre. Jusqu'où? Jusqu'à quand? Voilà. Eh bien voilà. Ma prière, c'est que cet après-midi, nous puissions avoir des perspectives. Et j'espère ne pas vous heurter dans la manière dont je parle de cette... de celui qui est l'objet de la foi des chrétiens, Jésus-Christ. J'essaierai parfois de nous le rendre proche de cette façon. Après, chacun pourra laisser cette proximité, le rejoindre selon son besoin. La première question qui m'était posée, donc, c'était comment accueillir et ou aider les démunis de nos sociétés, réfugiés, chômeurs, abandonnés, SDF. Je vous dis carrément que je suis incapable, moi, d'accueillir et d'aider les réfugiés, les chômeurs, les abandonnés, les SDF. Ça fait beaucoup trop pour moi. Et donc, je ne proposerai que quelques réflexion, et puis vous en avez sûrement plein d'autres. Voilà, c'est juste pour dire que... voilà. La première chose que je voulais dire, c'est écoute ton cœur. Voilà. Parce que là, vous voyez la liste, réfugiés, chômeurs, abandonnés, SDF, peut-être vous ne vous reconnaissez pas dans cette liste de ce qui vous tenterait dans l'accueil, parce que ce n'est pas ce public-là dans lequel vous allez sentir quelque chose en vous. Donc la première chose, c'est écoute ton cœur. Il doit y avoir un texte biblique qui dit ça. Tu as bien fait de l'avoir eu à cœur. Et c'est dit à un homme qui n'a pas du tout réalisé le projet qu'il avait, c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé, mais on lui dit, mais tu as quand même bien fait de l'avoir eu à cœur. Ça veut dire que, ce texte veut dire, par le fait que tu mets en route tes entrailles, dans la Bible on parle souvent des entrailles, c'est ce qui nous prend aux tripes, quoi. Voilà, si tu te laisses prendre aux tripes, il va se passer quelque chose. Ce n'est pas forcément toi qui vas le réaliser, mais ce n'est pas grave ça. Il va se mettre en route quelque chose en toi, et parce que quelque chose se met en route en toi, ça va éveiller d'autres. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'attitude d'éveil. Voilà. Si vous lisez Maurice Bellet, qui est un psychanalyste et dominicain, qui fait de la visite dans les prisons, eh bien, voilà, il y en a qui font des visites dans les prisons aussi. Hein, voilà. Je prétends pas leur donner des leçons, mais j'ai lu des choses, voilà, c'est tout. Et donc, il parle de ça, l'éveil. Écoute ton cœur. C'est ça qui va t'aider à voir clair dans ce que tu vas pouvoir faire comme accueil. Voilà. Ce n'est pas forcément de lire des tas de bouquins. Hein, voilà. Écoute ton cœur. Et va avec ça déjà, parle-en, construis-le, élabore-le, lâche pas l'affaire, comme on dit aujourd'hui, hein, lâche pas l'affaire, voilà. La deuxième chose, accueillir, ça veut dire, c'est accueillir. Ça veut dire que quand on accueille, c'est quelqu'un, vous dites, les personnes qui sont démunies, etc., ils ont des soucis, ils ont des problèmes, mais si en fait, quand je vois quelqu'un, je pense à son problème, je ne suis pas en train de l'accueillir. Voilà. Donc accueillir, c'est accueillir. Accueillir, c'est pas dire comment je vais l'aider. Non, accueillir, c'est accueillir. Accueillir, c'est une personne. Voilà. Voilà. Donc, il faut bien s'arrêter sur ce mot. On pourrait en parler plus longtemps si vous voulez. La troisième verbe que j'ai mis, c'est mesurer. C'est-à-dire, est-ce que je pourrais accompagner? Voilà. Est-ce que je pourrais aller vers ça? Les problèmes sont immenses aujourd'hui. Il y a toutes sortes de détresses, que ce soit dans nos villages, dans nos cités. Dans le monde, à l'étranger, etc., on n'a pas tous les mêmes appels, les mêmes capacités, les mêmes vocations. Donc, ce n'est pas la peine de se laisser effondrer par toutes les nouvelles, mais plutôt se dire, ça, cette petite chose, je peux la faire. Voilà. C'est un point de vue général que j'ai, qu'on se laisse facilement impressionner par toutes les nouvelles. Voilà. Et toutes les nouvelles, c'est effrayant, tout ce qui se passe, Et donc on dit, oh là là, le monde va très très mal. Au moment où on se dit ça, on perd son temps. Voilà, je vous le dis carrément. Chaque fois que vous vous dites, mais le monde va très très mal, les repères sont perdus, les gens, il n'y a plus d'autorité, les machins, tout ce baratin qu'on est en train de se faire, on perd notre temps. L'important, c'est face à ce que j'entends, qu'est-ce que moi je peux faire un tout petit peu? Voilà. Est-ce que je peux faire cette petite chose? Et là, vous allez en parler à quelqu'un. Et pendant que vous parlez de ça, là, vous gagnez du temps parce que vous motivez quelqu'un qui dit, ah ouais, tu aurais envie de faire ça. Super, ça me donne aussi une autre idée. Et là, on fait tout à fait autre chose que d'être effrayé par la perte de la moralité de notre siècle qui n'a aucun intérêt. Voilà, c'est tout. Donc, ensuite, écouter. Écouter, écouter, ça veut dire ne pas projeter ce qu'on aimerait pour les autres. Eh oui. Parce que s'ils faisaient comme nous, ils iraient tellement bien. Mais ça, d'abord, c'est pas si sûr que j'aille si bien, premièrement. Je vous donne peut-être pas envie. Et puis en plus, c'est sûr que comme je suis complètement différent de vous, si vous faites comme moi, ça va se tourner en catastrophe, quoi. La cagade. Voilà. Et donc, il faut qu'on sache que je suis tellement différent de ceux dont je m'approche que franchement, surtout, c'est pas la peine d'imaginer comment ça serait tellement mieux pour lui. Il vaut mieux lui demander à lui que moi de le dire. Voilà. Ça paraît. Mais vous savez, on est tout le temps pris par là. Je suis obligé de me le redire moi aussi. Je vous dis tout ça parce que j'ai besoin de me le redire régulièrement. Voilà. Écoutez, écoutez. Voilà. Hein. Réfléchir. Alors, il faut réfléchir aussi. C'est pour ça, on a commencé par le cœur, parce que je pense que ça ne sert à rien de commencer par la réflexion très profonde. Enfin, ça dépend des gens, hein, mais bon. Vous pouvez aussi faire le truc en sens inverse. Si vous êtes plus cérébral que sentimental, bon, voilà. Moi, il me semble que le partir des entrailles, c'est quand même, bon, voilà, c'est quand même une motivation forte. Et après, il faut réfléchir. Dans la Bible, vous savez peut-être qu'il y avait à une époque, la ville de Jérusalem était détruite et il y a un gars qui était exilé, qui a décidé de revenir pour se dire, ah, je vais revenir en aide à mon pays et parce que la ville est détruite. Et donc, il y est allé et la première chose qu'il a fait, c'était tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, faire le tour de la ville. Je ne sais plus combien de temps, il était sur son âne, enfin bon, voilà. Il y a un livre qui a été écrit là-dessus, qui est très intéressant, qui explique ce trajet. C'est-à-dire que quand même, il faut prendre la mesure de la chose. Il y a notre cœur, mais après, il faut réfléchir, voilà. C'est-à-dire, celui qui a à cœur, je ne sais pas, là, les chômeurs, les abandonnés, les réfugiés. Bon, on a du cœur pour les réfugiés, mais enfin, il faut réfléchir aussi. Il faut réfléchir, on le voit, il y a des associations qui s'occupent des réfugiés, ben, il y a quand même des problèmes juridiques, il y a des problèmes d'hébergement, donc il faut réfléchir. Il faut faire le tour de la ville, il faut se dire d'où ça vient. Voilà. Moi, je vous propose une petite réflexion sur quelque chose qui nous concerne peut-être un petit peu plus. Une des pistes de réflexion sur, par exemple, d'où vient l'exclusion. Alors, c'est une piste de réflexion. Après, ça n'est qu'une parmi d'autres. Alors, j'ai essayé là de vous rassembler quelques éléments sur qu'est-ce qui une des choses qui explique qu'aujourd'hui, un des problèmes, ce soit l'exclusion, comment elle se génère un petit peu et en quoi elle nous désarçonne. Alors, je fais un petit schéma très simple. Dans la société traditionnelle, la société, l'individu est inclus complètement dans le moule de la société. Ce qui veut dire autrement que la société définit ce que doit être l'individu. Ce mode de société existe encore aujourd'hui dans beaucoup de pays, mais il existe aussi chez nous. Et puis on a des petits bouts de notre vie dans lesquels on fonctionne comme ça, parce que c'est très pratique. Voilà. Parce que les gens nous disent comment il faut que je sois, et donc ça nous rassure, j'évite de penser à tout, réfléchir tout le temps, c'est fatigant. Donc c'est un cadre assez rigide. Bien sûr, c'est un cadre qui facilite la transmission. Certains ont peut-être déjà vu d'ailleurs ce schéma, parce que je me suis trouvé à l'exposer une ou deux fois dans des rencontres, mais je l'ai un petit peu retravaillé. L'être humain étant intelligent, il définit les organisations sociales qui lui conviennent le mieux. Ça paraît clair. Donc, dans une société traditionnelle, souvent, c'est des sociétés dans lesquelles il y a des gros problèmes de santé, de survie, etc. Et donc, l'urgence, c'est de transmettre. Transmettre son savoir pour que la société survive. Et donc, le cadre rigide est beaucoup plus efficace pour la transmission. Par exemple, ben, c'est pas compliqué, vous aurez le métier de votre père. Voilà. Voilà. Et les filles feront exactement comme faisait leur mère. Donc voilà. Brrr, voilà. Vous vous marierez avec un tel, c'est déjà défini, quand vous êtes petit. Et donc la transmission est assurée. Bien sûr, ça crée des relations de domination. Et la seule façon pour survivre là-dedans, c'est de créer un peu de l'intériorité. Vous vous étonnez pas que dans la société traditionnelle au Moyen Âge, on ait créé beaucoup de monastères. Voilà, c'est pas compliqué, ça permet la survie de la société qui crée de l'intériorité. Alors, dans la société moderne, qui est née bien sûr avec l'invention de l'imprimerie, avec ce qu'on appelait le temps moderne, les découvertes, 1492 jusqu'à à peu près 1968, ouais, ce qu'on appelle les temps modernes, c'est avec la révolution industrielle, avec les temps des Lumières. Là, l'individu s'autorise à avoir une part qui est en conflit avec la société. Voilà. Et il y a une part qui est commune, et il y a une part qui est donc définie de moi par la société, une part que j'ai, c'est moi. Voilà. Bon, voilà. Donc, vous comprenez tout de suite que dans ce modèle-là, c'est la grande époque des conflits sociaux. Logique, c'est-à-dire que l'homme refuse à la société de lui donner, de dépendre complètement, je ne dépends pas complètement de ce qu'on va décider pour moi. Voilà. Donc, avec la révolution industrielle, l'apparition des grandes idéologies, bien évidemment, c'est à ce moment-là qu'on voit naître la défense des intérêts personnels, c'est là qu'on voit aussi naître les grandes idéologies qui s'opposent, capitalisme, socialisme, communisme, etc. C'est aussi à cette époque-là que, par exemple, en termes chrétiens, naît la réforme, ce qui est facile à comprendre, puisque à ce moment-là, on commence à se dire que l'individu il ne peut pas être complètement défini par la société, et ben, à ce moment-là, naît la réforme où on dit que le salut de l'être humain, ça dépend d'un acte personnel, de foi, et que ce n'est pas le fait d'aller à l'église ou de s'en référer à une autorité religieuse qui me permet d'être sauvé. Et ben, donc la réforme, elle n'est pas n'importe comment, elle naît à un moment où les gens commencent à penser un petit peu différemment. C'est l'époque de la conscience, c'est l'époque des droits de l'homme. Alors, dans la société postmoderne, comme on l'appelle, qui est née dans les années 68-70 jusqu'à nos jours, mais peut-être déjà est-elle en train un peu d'évoluer, j'ai un schéma qui, à mon avis, déjà tient à peine la route, mais parce que ça va très vite. Alors, comme vous allez le voir dans mon diaporama, ça va beaucoup plus vite, puis ça donne un peu le tournis. Voilà, 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 encore un. Voilà. C'est-à-dire que là, il y a des groupes sociaux, j'appellerai plus ça une société, bien que la société ce soit l'ensemble, et il y a des individus. Et il y a des groupes sociaux qui côtoient des individus, et des individus qui côtoient plusieurs groupes sociaux, et personne n'appartient vraiment définitivement à personne. Voilà. Donc vous vous reconnaissez certainement bien là-dedans, parce que vous avez tous certainement dans votre poche un téléphone portable. Vous l'avez éteint ? Vous l'avez éteint ? Donc votre téléphone portable va sonner tout à l'heure, voilà. Et donc ça veut dire qu'en même temps que vous êtes ici, vous n'êtes pas là. Et vous avez beau me dire « Non, non, j'adhère pas du tout à l'époque postmoderne », menteur, parce que vous y adhérez totalement et vous êtes très content. Au contraire, vous prenez votre pied dans cette société où vous êtes à la fois là, à la fois là, à la fois là. Et où vous refusez de dire « Je suis là, voilà. Moi, je dirige une association. Si je dis aux gens « Ah, tu t'intéresses à l'association, tu vas devenir membre », pof, la personne, elle est partie, avant que je lui ai dit. Hein. Voilà. Donc, on ne demande à personne de devenir membre. Hein, voilà. Dans les églises où on dit, voilà, les églises traditionnelles où on dit « les gens sont tous partis, voilà. À part, on fait tenir les églises par des trucs hyper rigides, comme ça arrive aussi. Mais, donc, puis tout coexiste encore un peu aujourd'hui dans certains domaines. Hein, donc, voilà. Donc, c'est l'époque de la multi-appartenance, c'est l'époque de la liberté et des droits. Et je vous dis carrément que vous n'avez pas envie de retourner à avant, parce que là, franchement, aujourd'hui, vous pouvez vous marier à qui vous voulez. Hein, je veux dire, à cette époque-là, c'est pas possible. Donc, je pense que tout le monde préfère rester là. Hein, bon, voilà. Donc, il n'est pas question de revenir en arrière, il est question de voir que c'est différent. Je ne dis pas qu'ici c'est mieux ou que c'est moins bien, je dis que c'est différent et que l'être humain aujourd'hui il a développé ça. Ça n'est pas de l'individualisme. Je m'oppose à cette notion. Nous sommes dans une société de l'individu. Mais ce n'est pas pareil que d'être individualiste. Individualiste, ça veut dire que je m'occupe que de moi, de mon nombril. Donc c'est une société où l'individu, on prend en compte la demande de l'individu. Alors, c'est une société de la tolérance, c'est une société des convictions, c'est une société du village mondial et c'est une société des réseaux, parce que l'être humain est un être social, même si c'est basé sur l'individu, il cherche à tout prix à être relié. Et donc, vous ne vous étonnez pas du tout qu'au même moment, l'invention majeure, ce soit Internet, tout ce qui vous, je sais pas quoi, Facebook, Twitter, tout ce que vous imaginez tous les jours. Et donc, pourquoi ? Parce qu'on est une société de l'individu et que donc, comme on n'a surtout pas envie qu'on est un être social, bien évidemment, il faut rester en lien. Alors, vous remarquez bien sûr que ce lien est évidemment un petit peu plus ténu. Donc, dans ce cadre, dans cette première société, les exclus, c'est les mécréants, hein, on leur marquait même un truc au front dans les sociétés médiévales, hein, pour les reconnaître. Si on ne les laissait pas en prison, on leur mettait un truc comme ça, ils étaient marqués au fer rouge à jamais. Et les ermites, bien sûr, parce que les ermites, ils sont un peu exclus. En fait, c'est eux qui l'ont choisi, mais est-ce vrai ? Bon, on peut se poser la question. Mais en même temps, vous remarquerez que tout groupe a besoin d'exclus. Parce que puisque c'est un groupe, c'est forcément qu'il y a des gens qui ne sont pas. Sinon, il n'y aurait pas de groupe. Donc, la notion de groupe crée forcément de l'exclusion. Mais ce n'est pas toujours les mêmes qu'on exclut. Et l'ermite du village, il permet au village d'exister aussi. Ah bah oui, c'est un tel là-haut dans sa montagne. Et donc, je ne suis pas comme lui quand même, c'est rassurant. On a toujours peur de mourir ou d'être confondu avec ceux qui ne vont pas bien. Donc, on désigne ceux qui ne vont pas bien, ce qui me permet de savoir que moi, je vais bien. Voilà. Donc, on n'est pas dupe de notre propre attitude. Hein. Alors, dans la société moderne, ceux qui ont été exclus, ceux qui ont été les démunis, ce sont les pauvres. Les grandes pauvretés du 18-19e siècle ne sont plus à décrire. Je veux dire, bon, vous avez tous à l'esprit ces grands récits, dans les sociétés industrielles en particulier, et la grande pauvreté, et puis au XXe, la grande pauvreté qui est apparue avec les pays qu'on a appelés en voie de développement, etc. Donc on voit là qu'avec l'apparition de ces créations-là, c'est la pauvreté. Dans la société dans laquelle nous sommes ici et maintenant, la société postmoderne, eh bien, ce ne sont pas les foncièrement des pauvres qui sont exclus, mais c'est ceux qui n'arrivent pas à tenir ce petit truc-là fragile. Parce que pour tenir ça, comme ça bouge tout le temps, il faut être capable de se lier, de se délier, de se relier, de se lier, de se délier. Et cette capacité-là, elle doit s'apprendre. Cette société est apparue très vite, et donc nous avons besoin d'aider, de nous aider les uns les autres à faire cet apprentissage. Voilà. Donc ceux qui sont en dehors de ça, bien sûr, ils sont laminés. Voilà, ils sont laminés. Et ça va à une vitesse folle. Alors, vous avez le problème des immigrés, vous le voyez très bien. On a eu besoin des immigrés, on les a mis dans des quartiers. Ta, 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 ta. Un beau jour, on n'a plus trop besoin de leur travail, on a plus moins de travail. Ils sont toujours dans les quartiers. Et donc, c'est des gens qui sont enfermés. Et donc, cet enfermement fait très, très peur. À eux! Mais bien sûr, nous, maintenant, on a peur d'eux. Mais c'est à eux que ça fait surtout peur. Et c'est pour ça que ça développe de la violence, parce qu'ils ont peur. Et donc, ces personnes-là. Un jour, l'abbé Pierre est allé dans une cité, puis leur a dit, écoutez, voilà, l'Europe. Vous faites chier l'Europe, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne savez pas où c'est, l'Europe, ils ont tous tort, etc. Bon, qui est-ce qui veut faire un tour à vélo? Ouais. Bon, vous allez, je prends 10 gars, je vous offre à chacun un vélo, enfin je vous prête à chacun un vélo, et vous allez visiter 4 capitales européennes à vélo. Ouais. Donc vous allez à Bruxelles, à Amsterdam, à Londres, hein, je ne sais pas quoi, et puis vous venez à Paris. Ouais, etc. Tous les soirs, vous me téléphonez à moi, l'abbé Pierre, pour me dire où vous êtes. Voilà. Et à la fin, vous gagnez, je ne sais pas quoi, ils ont gagné leur super VTT, chacun, enfin, etc. La cité a été transformée. Transformée. Parce qu'il y avait 10 personnes qui avaient quitté la cité et qui étaient revenues. Ils sont revenus vivants. Et ils sont revenus, on n'en meurt pas. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, le fait d'être enfermé sur soi fait que l'extérieur fait très très peur. Mais petite parenthèse, ça peut être pareil dans l'église. Hein, on a très très peur. Voilà. Et si on sort et qu'on revient et qu'on n'est pas mort, finalement, voilà, on est toujours chrétien. Bon, ouais, parenthèse. Alors, c'est une société mouvante. Alors, je vous donne deux, trois petites pistes bibliques, même si je ne suis pas théologien, comme ça, en passant. Une société où tout bouge, cherche la paix de la ville où tu as été transporté. Chacun dans la ville où il habite. C'est fondamental. Ils sont déportés, ces gens-là, ceux qui disent ça, et leur rêve pourrait être de rentrer, d'ailleurs, dans leur pays d'origine. C'est pas ça le problème. Tout est mouvant, tout est changeant. Est-ce qu'on retournera? Est-ce qu'on retournera pas? C'est pas ça le problème. Là où t'es, prie pour la paix de là où t'es. Voilà. Donc déjà, ça va nous mettre en route. Parce que on est effrayé par des problèmes qu'il y a partout, partout, partout. La télé, la radio, etc. Donc là, déjà, tu vas commencer à prier pour ton quartier, ta ville, ton village, etc. Ouais. Je passe. Là, c'est des petites phrases que j'avais mises. Tu es dans le monde et pas du monde, ressemble à un exilé. J'aimerais poser la question à l'Église. Comment se fait-il que l'Église ne soit pas présente sur le champ de l'accueil des exilés quand l'Église proclame en permanence qu'elle est du monde et pas du monde? Qu'est-ce que ça veut dire, être du monde et pas du monde? Je vais vous montrer. Je crois que j'ai un petit truc là. Oui, voilà. Voilà. Voilà les gens qui ont deux appartenances. Ils sont de l'Algérie, de la France, de l'Ukraine et de la France, parce qu'ils sont là, mais ils sont plus de là-bas. Et tout le monde leur dit, ah, oh, t'es plus un vrai Algérien, t'es pas un vrai Français. Vous avez entendu parler du débat sur l'identité nationale, hein? Voilà. C'est pas pervers de se poser la question, qu'est-ce que c'est être français? Mais en revanche, ce qui est pervers, c'est si jamais on disait, c'est pas un vrai Français. Et ça veut dire, si tu dis ça à quelqu'un, c'est quoi ça? T'es pas un vrai. Mais t'es quoi? T'es à moins que quoi? Vous voyez, tout de suite, ce qui peut germer à l'intérieur. C'est très compliqué. Les gens qui ne peuvent pas dire s'ils sont, qui sont pas vraiment des vrais de là, ni des vrais de là, mais c'est épouvantable, ils sont divisés en deux. Mais vous, ça ne vous arrive pas de vous dire ça? Les chrétiens, vous ne savez pas ce que ça veut dire, ça? Être d'ici et être de là-haut? Comment ça se fait alors que les chrétiens ne soient pas présents là? Alors qu'en fait, ils proclament tout le temps qu'eux, ils savent très bien ce que ça veut dire d'être d'ici et d'être d'ailleurs. On sait ce que ça veut dire. On le vit dans nos tripes. Comment se ferait-il que les chrétiens ne soient pas présents près de ceux qui sont face à cette même problématique d'être de quelque part et aussi de quelque part ailleurs? Donc j'affirme que les chrétiens, s'ils y pensent, ils sont préparés à ça. Parce qu'ils sont appelés à vivre comme un exilé. Donc ils savent ce que c'est qu'être exilé. Donc il faut créer de nouvelles appartenances, de dire que je suis et d'ici et de là, au lieu de n'être ni de là ni de là. Voilà. Les remises en question. Donc je vais penser à cette idée que transmet à d'autres. Il faut s'adapter, il faut changer notre façon d'exprimer les choses. Aujourd'hui, on est plus à une époque de conviction qu'à une époque de certitude. Voilà, je vous donne une piste comme ça en passant. Je ne m'attarde pas. C'est une société des contradictions aujourd'hui. Vous avez des écarts énormes entre des soucis qu'on a pour le bien-être. Vous avez regardé, par exemple, l'action sociale en France, c'est quand même quelque chose de très élaboré. Donc on peut dire que quand même on a un vrai souci de l'autre, qu'on n'a peut-être pas eu dans des siècles antérieurs, quand même. Qui n'est peut-être pas la préoccupation de Louis XIV, hein, par exemple. Voilà. Aujourd'hui, on a quand même une préoccupation de l'autre qui a beaucoup grandi. Et en même temps, on a des disparités sociales énormes et dont on se dit qu'elles n'arrêtent pas de s'accroître. Donc, si vous voulez, ça, c'est très compliqué pour nous de l'appréhender, cette espèce de distorsion qu'il y a entre une chose et l'autre. Donc, face à ça, moi, j'ai deux, trois petites pistes. Il est dit dans la Bible, « Bienheureux celui qui comprend le pauvre. » Il est dit que l'orgueil, l'abondance de pain, le repos insouciant sont reprochés à des villes dans la Bible parce qu'ils n'ont pas fortifié le pauvre. Donc on voit que quand même il y a un appel à s'approcher, à fortifier, à comprendre, à réfléchir à ce qui se passe face à ces contradictions. Alors, la contradiction la plus bizarre, c'est qu'il nous est dit que Jésus a vécu dans la pauvreté afin qu'elle nous enrichisse. Est-ce que vous avez déjà réfléchi à cette phrase, sûrement? Comment la pauvreté de quelqu'un va vous faire devenir riche? Voilà. En quoi la pauvreté de quelqu'un, vous allez vous approcher de quelqu'un, va devenir votre ami et grâce à ça, vous allez devenir riche? Voilà, ça c'est une contradiction fantastique de l'Évangile. On en reparlera tout à l'heure, mais je vous la mets là déjà parce que je pense que c'est une des clés pour nous approcher des autres. Ah oui, alors la société de l'individu. Donc je crois que puisque c'est la société de l'individu, eh bien, il y a plusieurs pistes dans lesquelles il faut faire attention. Il y a des individus dans certaines époques de la Bible où on voit que des gens peuvent devenir des porteurs d'espoir, même dans une société où il n'y a plus de structuration. J'ai pris l'exemple de Samson, une époque où on nous dit qu'il n'y avait pas de roi, c'est-à-dire c'est plus une époque de type société traditionnelle où tout le monde définit que son affaire. Du coup, c'est un peu une société comme aujourd'hui. Et bien, dans une société comme aujourd'hui, dans le livre des juges, où tout apparaît un peu éparpillé, chacun dans son coin, les petites tribus ne sont plus très unifiées, enfin, on va dire, voilà. Et bien, il y a des gens qui peuvent devenir des signes et être porteurs d'espoir pour les autres. Donc, ce n'est pas parce que dans une société éparpillée qu'il n'y a pas d'espoir possible. En revanche, c'est une société dans laquelle il n'y a plus de grands héros. Mes amis, l'abbé Pierre nous a quittés il y a 3 ans. Mère Teresa, Sœur Emmanuelle, Billy Graham, bientôt, sans doute, et ces grands témoins, petit à petit, nous quittent. Voilà. Donnez-moi des noms qui sont fédérateurs de ce qu'est le christianisme et de sa présence dans ce monde aujourd'hui, on va peiner à les trouver, d'accord? Des grands noms. Ça n'a pas d'importance. Aujourd'hui, on est une société de l'individu, donc localement, ici et là, des morcellements, il va falloir se donner la peine de regarder près de nous, et il y en a qui le font. Et il y a des journaux qui sont là. Il y a des journaux chrétiens, il y a des médias d'information qui nous apportent, chrétiens ou non d'ailleurs, mais qui nous apportent des informations sur des choses extraordinaires que font des chrétiens à notre porte. Ce n'est pas des noms peut-être qui sont connus mondialement aujourd'hui. Eh bien, c'est comme ça, notre société est comme ça. Donc, il faut arrêter de se dire, de se lamenter. Vous n'avez qu'à regarder dans l'église. Dans l'église aussi, c'est un peu pareil. Vous aviez des personnes ou des grands conducteurs dont on pouvait se réclamer. Aujourd'hui, tout est un peu morcelé. C'est grave, on va pleurer. Non, on a une autre société. On va donc s'adapter à cette autre société. Et regardez, dans une société vue comme en exil, comme dans les livres d'Ézéchiel, eh bien, la Bible nous dit, même Noé, Daniel et Job ne serviraient à rien. On n'a pas besoin de ces grands témoins. Il va se passer quelque chose dans une fermentation souterraine dans cette société de l'individu. Voilà. Alors, je pense qu'il faut des petits groupes, et il faut des alternances. Il ne faut pas vouloir rassembler tout le monde autour d'une idée, puisqu'on est dans une société des petits groupes sociaux et des individus. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir dire, alors, maintenant, on va faire ça. Notre église, notre assemblée a décidé de faire ça. Si vous voulez faire ça, vous allez faire partir tout le monde. Enfin, moi, à mon sentiment, ce n'est pas adapté à notre société, mais des petits groupes. Et puis, de temps en temps, on va faire créer des moments de vaste communion, où on va se raconter les choses, etc. Parce que ça marche aussi. Mais dans un quotidien plus fragmenté. C'était ma première question, donc, où je vais donner quelques pistes de réflexion sur comment on va accueillir face à l'immensité de ces problèmes. Ça vous va? Je ne vous assomme pas trop.